Notre lecture biblique se trouve aujourd'hui dans le passage de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, versets 44 à 47. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps marqué? Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il l'établira sur tous ses biens. Puisse Dieu ajouter véritablement sa bénédiction sur cette lecture et sur toutes les choses que nous nous apprêtons à contempler ensemble et à méditer. C'est ma prière. Voilà, encore une fois, bonjour à tous, frères et sœurs. Je tenais à vous partager aujourd'hui un message dont nous avons profondément besoin, et qui est directement en lien avec le temps où nous vivons. Je l'ai intitulé « Où nous sommes et où nous allons ». Où nous sommes et où nous allons. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui ? Et où est-ce que nous allons ? C'est ce que, dans ce bref temps que nous aurons aujourd'hui, nous chercherons à mieux comprendre. Parce que si vous vous remémorez toutes les choses qui caractérisent le temps dans lequel nous vivons et l'époque à laquelle nous vivons, vous vous rappellerez avec moi que, en effet, nous vivons à une époque où la connaissance des hommes a grandement augmenté. C'est l'une des caractéristiques du temps de la fin. La connaissance augmentera. Et cela est particulièrement vrai de la connaissance et de la compréhension des prophéties. Ce passage a trait principalement à cette connaissance-là. Mais cette connaissance-là, la connaissance des prophéties, n'augmente pas pour tous. Vous le voyez au verset 11. Si vous vous tournez brièvement avec moi vers ce passage de Daniel, chapitre 12 et verset 11, nous reprenons ici un fil, un long fil prophétique, que ce n'est pas ici l'objet de notre méditation de contempler, simplement pour comprendre le temps, la nature du temps dans lequel nous vivons. Daniel chapitre 12, verset 11. Excusez-moi, pas verset 11, plutôt verset 10 à 11. Verset 9 à 10 plutôt. Et il dit, « Va Daniel, car ses paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Mais les méchants agiront avec méchanceté, et aucun des méchants ne comprendra, mais les intelligents comprendront. » Hein, si vous revenez au verset 4, il est écrit, « Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. » Plusieurs parcourront ce livre de Daniel et la connaissance augmentera, à savoir, principalement, la connaissance des prophéties. Mais nous lisons, quand nous allons au verset 10, que nous venons de lire ici, que tous ne verront pas cette connaissance augmenter. En effet, nous lisons que les intelligents comprendront, mais que les méchants ne comprendront pas. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, mais les méchants continueront d'agir méchamment. Avec méchanceté, n'est-ce pas? Et donc cela, ne serait-ce qu'en soi, nous permet de voir que cette connaissance des prophéties n'augmente pas pour tous. Et en effet, nous assistons à la réalité selon laquelle elle diminue même pour certains. Hein? La connaissance qui était censée augmenter, elle s'en va en diminuant pour certains. Et d'ailleurs, une compréhension et un examen plus élargi des prophéties nous montre que pour la majorité, tel est le cas. Et donc nous voulons faire ici, frères et sœurs, un rappel du tracé prophétique. Nous voulons passer en revue les choses que Dieu désire que nous comprenions, afin que nous puissions savoir où nous nous situons, afin que nous puissions savoir où nous allons. Car en effet, comme nous allons le voir, on va pouvoir l'explorer ici plus en détail, si nous ne savons pas où nous sommes, nous ne pouvons pas savoir ou comprendre où nous allons. Nous ne pouvons pas. Si vous êtes en plein dans la mer, mais que vous n'avez pas de boussole, vous ne savez pas d'où vous êtes parti, comment pouvez-vous savoir où vous allez? Mais si vous savez d'où vous êtes parti, mais que vous ne savez plus où vous êtes, vous ne pouvez pas non plus savoir où vous allez. Et donc, vous ne pouvez pas vous y rendre, parce que vous ne savez pas où ça se trouve. Mais assez pour ce langage imagé. On veut repartir sur la prophétie des faits bien concrets. Si vous passez avec moi en revue le passé, nous voyons que l'histoire et la prophétie combinées nous apprennent que dès 1833, la proclamation du message du premier ange a commencé. Avec Apocalypse, chapitre 14, versets 6 à 7. Et dans la réalité, cela s'est concrétisé par le don et la vocation de William Miller et cet élargissement de sa mission par le biais de ce qu'on connaît comme le mouvement millérite. Ce n'était donc pas uniquement lié à un seul homme. Il s'agissait d'un message prophétique. Et à la suite de ce message, du premier ange, et d'ailleurs en conséquence du rejet de ce message du premier ange par les églises protestantes de l'époque, nous avons vu le message du deuxième ange s'appliquer dès ce temps-là, à l'été 1844. Apocalypse, chapitre 4, verset 8, le message du deuxième ange annonce la chute de Babylone. Et ce message, donc, s'applique à la période qui commence en 1844, mais qui s'en irait en s'aggravant. C'est ce que nous allons voir. Parce que dès 1848, nous voyons ensuite clairement le message du troisième ange entrer en vigueur. Comment ? À cause de ses traits caractéristiques, de l'observation des 10 commandements et de la foi de Jésus. Nous le voyons en effet entrer en vigueur en examinant l'histoire, car nous avons la naissance du mouvement des adventistes du septième jour. Plus simplement du mouvement adventiste, parce que c'était vrai également du mouvement de Miller en 1843, mais désormais des adventistes du septième jour, ceux qui gardent les commandements de Dieu, ce qui n'était pas vrai, des adventistes qui les avaient précédés et dont ils avaient d'ailleurs fait eux-mêmes partie, pour beaucoup ou pour certains. Mais alors, Frères et sœurs, toutes ces connaissances-là, elles sont le fruit d'un discernement qui vient de Dieu et que nous devons chercher auprès de lui. C'est-à-dire, nous n'avons ces connaissances-là que par l'étude, que par d'ailleurs aussi la foi. Et ce discernement, c'est un discernement que seul Dieu peut nous donner et que nous avons besoin de recevoir de lui. J'aimerais attirer votre attention vers le fameux passage de 1 Chronique chapitre 12. 1 Chronique chapitre 12 et verset 32. 1 Chronique chapitre 12 verset 32, si j'arrive à le trouver, met en lumière l'essence de ce message ici que je voudrais, que j'ai à cœur de nous partager. Ici, vous avez cette suite, cette liste de caractéristiques des différentes tribus, des choses qui leur étaient caractéristiques. Hein, les enfants de Benjamin, et juste avant cela, vous aviez des enfants de Lévi, des enfants de Siméon. Et maintenant, vous avez aussi des enfants d'Éphraïm, les enfants de Manassé. Et lorsque nous arrivons aux enfants d'Issacar, nous lisons à leur sujet, 1 Chronique chapitre 12, verset 32, des enfants d'Issacar qui savaient discerner les temps pour savoir ce qu'Israël devait faire, 200 de leurs chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Nous avons ici une définition biblique et une caractéristique d'un peuple. Les enfants d'Issacar, je cite, savaient discerner les temps et en quoi cela leur était utile, je cite, pour savoir ce qu'Israël devait faire. Ils savaient discerner les temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Et là, vous commencez d'ores et déjà à comprendre le sens et l'origine de cet intitulé de ce message, à savoir où nous sommes, où nous allons. Où nous sommes, où nous allons. Discerner les temps où nous sommes afin de savoir ce que nous devrions faire pour aller là où nous devons aller. Ce que nous devrions faire et là où nous devrions aller et comment nous devrions nous y rendre. Les enfants d'Issacar savaient discerner les temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Explorons maintenant cette pensée et élargissons-la afin qu'elle soit pas simplement un concept anodin auquel viennent s'ajouter tout un monticule de paroles humaines, mais que ce soit vraiment le fondement de notre compréhension et de notre soif de comprendre. Parce que si nous avons simplement l'impression de savoir, nous n'irons pas plus loin. Et c'est là que nous nous fourvoirons et serons en danger d'être jetés dans la mécompréhension et la confusion, tout particulièrement au sujet des prophéties. Et notre compréhension des prophéties influera notre compréhension et notre discernement des temps. À savoir, nous ne saurons plus où nous sommes et par conséquent, il nous sera impossible de savoir où nous allons sans parler d'y aller. Donc il s'agit ici d'un discernement si essentiel que sans lui, sans cette intelligence des temps, pour reprendre le langage de la Bible Louis II, nous ferons les choses qui sont révolues et nous omettrons de faire les choses qu'on devrait faire, pour employer le langage du passage. Hein? Parce que, ici, nous comprenons dans le point positif, mais si vous appliquez ce principe dans l'aspect négatif, ce qu'il en résulte, c'est que si nous ne discernons pas les temps, nous ne saurons pas ce que nous devrions faire. Et si nous ne savons pas ce que nous devrions faire, eh bien, nous nous retrouverons à faire, et en effet, je dis cela parce que je l'ai vu, nous nous retrouverons à faire des choses qui sont révolues, qui s'appliquaient à un autre temps, et à omettre de faire des choses qu'on devrait faire si seulement nous savions que nous vivions dans ce temps-là, présent. Mais non, nous pensons que c'est passé, ou nous pensons que c'est futur. Et donc nous ne faisons pas ce que nous devrions faire. Nous dormions lorsque nous devrions être réveillés, et nous sommes actifs et zélés là où nous devrions changer notre fusil d'épaule. Et c'est ça toute la question. C'est ça toute la question, frères et sœurs. Nous sommes zélés là où nous aurions dû changer la direction de nos efforts, et nous sommes endormis là où nous devrions être éveillés. Tel est le danger de l'absence du discernement des temps. Tel est le danger que nous encourons si nous n'avons pas cette intelligence. Et d'ailleurs, Jésus lui-même a averti concernant le temps précédant son retour, que tel serait le danger qu'encourrait le peuple de Dieu. Vous le trouvez dans ce passage qui d'ailleurs était notre lecture biblique, en partie, de Matthieu chapitre 24, verset 43. Matthieu chapitre 24 et verset 43. Voilà ce que Jésus disait au sujet de son retour. Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit le larron viendra ou viendrait, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison ou cambrioler. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps marqué? Ou, pour employer le langage de la Bible Louis II, pour leur donner la nourriture au temps convenable. La nourriture au temps convenable. Quel est donc ce serviteur fidèle? Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise dans son cœur « Mon maître tarde à venir » et qu'il se mette à battre ses compagnons de service, à manger et à boire avec des ivrognes, le maître de ce serviteur-là viendra au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Et il le séparera et il lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Quel est le rapport? Quel est le rapport entre le discernement des temps et ce serviteur fidèle, et d'ailleurs également avec le serviteur infidèle et méchant? Eh bien, vous le voyez au verset 45. Et tout particulièrement au verset 48, tout particulièrement au verset 45 et 48. Vous avez ce langage qui est employé ici, qui nous renvoie directement à ce principe que nous venons de trouver dans la Chronique, chapitre 12, verset 32. Qu'est-ce que c'est? Le Seigneur demande, Jésus demande, il parle d'un temps futur, quel sera donc le serviteur fidèle et prudent, non seulement que le maître a établi, mais qui véritablement et effectivement donne la nourriture au temps marqué ou au temps convenable. À savoir, c'est la nourriture pour le bon moment. Hein? Une nourriture adaptée au temps. Mais pour pouvoir faire cela, pour que ce serviteur fasse preuve ainsi de fidélité, il lui faut avoir, quoi? L'intelligence des temps, le discernement, n'est-ce pas? Car s'il ne discerne pas, frères et sœurs, comment peut-il donner la bonne nourriture? Comment peut-il? Il se verra en train de donner une nourriture passée, pourrie, périmée. C'est ça, frères et sœurs, le réel danger, non seulement que nous encourons, mais dans lequel la plupart des adventistes du septième jour aujourd'hui sont tombés, noyés et oubliés. Ils sont oubliés, mais ils sont actifs. Mais ils sont actifs pour les mauvaises raisons. Leurs efforts sont dirigés dans la mauvaise direction parce qu'ils n'ont pas, et nous n'avons pas, le discernement des temps. Ainsi donc, nous voulons être pleinement éveillés afin de recevoir, non pas d'homme, ni d'un homme, mais de Dieu, le juste discernement des temps, afin que nous sachions où nous sommes et que nous puissions également discerner où nous allions, et ainsi que nous soyons en mesure de donner aux hommes la nourriture au temps convenable, la bonne nourriture, et ne pas déployer des efforts révolus en attendant des choses qui sont passées et en attendant des temps qui sont présents. Telles sont des choses qui se présentent à nous, frères et sœurs. Et d'ailleurs, si vous regardez maintenant par contraste la condition du serviteur dont la nature est opposée et dont les œuvres sont diamétralement opposées également, vous voyez que Jésus parle de ce méchant serviteur comme quelqu'un qui dit en son cœur « Mon maître tarde à venir ». Et j'aimerais suggérer ici, à votre réflexion, que cet esprit d'indifférence, d'insouciance, par lequel ce serviteur remet à plus tard le retour de Jésus, n'est pas uniquement dû à un refus délibéré de se préparer, mais est également dû à un refus de recevoir de Dieu le juste discernement qui le rend par extension et par conséquent incapable de discerner les temps et qui donc le fait remettre à plus tard le retour de Jésus. C'est ça. Et frères et sœurs, j'aimerais vous suggérer ceci, que c'est précisément dans cette condition que se trouve la grande et gigantesque majorité des pasteurs adventistes aujourd'hui, dans la condition d'un serviteur qui dit dans son cœur et par sa croyance et ses enseignements que le Seigneur Jésus revient plus tard. Mon maître tarde à venir, à savoir comparé à la réalité et la vérité des prophéties, cet homme dit que Jésus vient plus tard alors que la vérité et le réel discernement des temps lui feraient attendre Jésus tout de suite, bientôt. Je viens bientôt, dit Jésus. Mais bientôt combien? Combien bientôt? C'est ce que nous allons voir. Et donc le Seigneur prononce une bénédiction sur ceux qui ont un tel discernement et qui emploie le discernement pour nourrir spirituellement le peuple de Dieu en ce temps de famine. Et donc, nous allons explorer cela. Vous allez voir à la lumière de lectures supplémentaires combien ces choses sont en réalité applicables à notre temps et combien elles n'ont jamais été plus applicables qu'aujourd'hui. Tournez-vous avant cela avec moi vers le passage de 2 Timothée chapitre 2 verset 15. 2 Timothée chapitre 2 et verset 15, nous lisons le suivant. En lien avec cet appel de Jésus tourné en question vers la présence et l'activité d'un serviteur fidèle et prudent, nous avons ce passage au sujet justement du serviteur. Et cette vocation du serviteur. De Timothée chapitre 2 verset 15. Efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu, comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture la parole de la vérité. Etc. Qu'est-ce que c'est? Efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu, comme un ouvrier irréprochable. Et comment est-ce que Le serviteur peut ainsi être irréprochable et être éprouvé devant Dieu et trouvé dans une bonne condition. Une condition de fidélité et de prudence, à savoir de sagesse, et à savoir de discernement. En faisant ceci, en dispensant avec droiture la parole de vérité. La parole de la vérité. Et j'attire votre attention vers la manière dont c'est écrit dans l'anglais, à savoir en divisant avec droiture la parole de vérité. En divisant, à savoir en sachant quoi appliquer quand. C'est seulement alors qu'un ouvrier pourra être reconnu comme éprouvé devant Dieu et irréprochable, fidèle à sa tâche et approuvé de Jésus lorsqu'il lui accordera cette fameuse et lui communiquera cette fameuse bénédiction. Entre dans la joie de ton Seigneur, etc. Bien bon et fidèle serviteur, vous vous en rappelez? Donc, comme je viens de le dire, le serviteur fidèle, l'ouvrier éprouvé et irréprochable, divise bien la parole et sait en faire la juste application. En sachant où nous sommes, il peut comprendre où nous allons et ce qu'Israël doit faire. Donc voilà. Là, ce que nous venons de faire ici, frères et sœurs, nous venons simplement de regarder ces choses de manière générale. Si je m'arrêtais là, nous n'aurions pas été aidés. Le moindre du monde. Nous avons juste exploré cela de manière générale. Maintenant, nous voulons, par la grâce de Dieu, faire une application de ces choses. À savoir, dispenser avec droiture la parole de vérité. À savoir, en faire une application concrète, localisée et précise. Nous devons savoir qu'est-ce qui s'applique où et quand et comment. Seulement alors l'ouvrier peut être déclaré comme irréprochable et non seulement éprouvé, mais approuvé de Dieu et rentrer dans cette catégorie du serviteur fidèle et prudent qui donne au peuple de Dieu, la maison de Dieu, la nourriture au temps convenable. J'aimerais attirer, frères et sœurs, votre attention vers ce que j'ai appelé le carrefour adventiste de la perte du discernement. Et je ne cherche pas du tout à être original, c'est simplement pour susciter notre curiosité et notre attention pour que nous soyons tout oui pour maintenant comprendre pourquoi aujourd'hui nous faisons face à une telle famine, non seulement de la parole de Dieu, mais d'un discernement. La famine de la parole de Dieu est due à une absence de discernement, est due à un aveuglement spirituel généralisé parmi les adventistes du septième jour. À quoi est-il dû? À ce carrefour. Carrefour de la perte du discernement spirituel. Nous voulons explorer cela. Quel est ce carrefour? Pouvons-nous le localiser précisément? Excusez-moi. Pouvons-nous localiser précisément ce carrefour? Et pouvons-nous en effet assister à une perte graduelle, progressive, mais certaine, du discernement des temps parmi ceux qui font profession de foi dans les messages des trois anges? Pour arriver à une réponse solide sur laquelle nous pouvons fonder des convictions fermes, nous voulons examiner quelques passages. Donc je vous invite à la patience et à l'attention. Rappelez-vous, frères et sœurs, le vrai discernement, ce n'est pas juste connaître la nature de la justice et la nature du mal. Le vrai discernement, ce n'est pas juste connaître la nature de l'obéissance et la nature du péché. Le discernement complet, il inclut ces choses, mais c'est également avoir, je cite, l'intelligence des temps. Le discernement, c'est savoir discerner les temps. Si nous savons, bibliquement parlant, ce qu'est le péché, ce qu'est l'obéissance, ce qu'est la justice, ce qu'est la tentation, c'est bien. Mais nous pouvons malgré tout être dans l'incapacité de donner au peuple de Dieu et également de discerner la nourriture au temps convenable. Hein? Nous voulons garder cela à l'esprit. Maintenant, tout cela étant dit, je vous invite à lire avec moi la citation suivante qui se trouve dans Testimonies to Ministers and Gospel Workers à la page 397 et premier paragraphe. Rappelez-vous, lorsque nous lisons les témoignages, nous devons toujours prendre en compte, les temps et les lieux. Nous devons nous rappeler que ces choses ont été écrites du temps de Sir White et là où elles se trouvaient. Mais toutefois, ces choses-là, ces temps et ces lieux, qui diffèrent donc de notre temps et de nos lieux, n'annulent pas tous les témoignages. Simplement, ils nous permettent de calibrer comment nous appliquons le témoignage de Jésus à nous aujourd'hui. Et c'est pour cela que je suis toujours dubitatif sur des simples copier-coller, parce que nous avons besoin de plus que de savoir lire. Nous avons besoin de plus que d'avoir la compétence orthographique et grammaticale pour pouvoir lire des phrases entières et des paragraphes. Nous avons besoin de discernement que seul le serviteur peut donner. Pourquoi ? Parce que les serviteurs du passé sont morts, ils ne pourraient pas vous donner le discernement qu'ils n'avaient pas parce qu'ils ne vivent pas dans le temps où vous vivez. Nous, c'est pour ça que nous avons besoin de serviteurs vivants pour nous donner la parole vivante, une nourriture convenable au temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je lis la citation. Le peuple auquel Dieu a confié des intérêts éternels, ceux qui détiennent la vérité dont la portée est éternelle, ceux qui sont les gardiens de la lumière qui doit éclairer le monde entier, ont perdu leur repère. Dieu s'est-il trompé? Ceux qui sont au cœur de l'œuvre sont-ils des vases choisis pour recevoir l'huile d'or que les messagers célestes, représentés par deux oliviers, vident dans les tubes d'or pour alimenter les lampes? Hein, Sir White, en son temps, demandait, est-ce que ces hommes qui sont dirigeants dans l'œuvre, qui sont, je cite, au cœur de l'œuvre, sont des vases choisis, hein, des serviteurs fidèles, pour recevoir de Dieu l'huile, le Saint-Esprit, le discernement, rappelez-vous, hein, l'huile, le collier, etc. Et pour ensuite, à leur tour, alimenter les lampes, alimenter l'Église, nourrir les membres de l'Église. Sont-ils ce genre de personnes? Parce qu'elle dit, juste avant, hein, la question est rhétorique, parce que juste avant, elle dit « Le peuple auquel Dieu a confié des intérêts éternels, ceux qui sont les gardiens de la vérité qui doit éclairer le monde entier, ont perdu leur repère. » Au temps de Sir White, déjà, frères et sœurs, il y avait une perte de repère. Et donc, si une perte de repère, il existe, sommes-nous en capacité de savoir où nous allons? Vous voyez, la perte de repère, elle est équivalente à l'incapacité de discerner les temps. Parce que si vous avez perdu vos repères, cela veut dire que vous ne savez pas où vous êtes. C'est comme si vous êtes sans GPS et vous avez été jeté dans le désert et maintenant vous êtes perdu. Hein? Mais maintenant, cette absence de discernement, elle n'est pas due à une mauvaise fortune, elle est due à autre chose. Elle est due à autre chose. Les personnes ne sont pas uniquement victimes d'une perte de discernement, mais la perte de discernement est la conséquence d'autre chose. Cette autre chose, nous voulons la contempler, afin que vous puissiez comprendre ce dont je vous ai parlé au sujet de ce carrefour de la perte de discernement. Écoutez avec moi. Je lis maintenant dans la revue Signs of the Times du 7 septembre 1891, paragraphe 4, qui nous dit ceci. Les serviteurs de Christ devraient chercher à comprendre les obligations de ce temps. Les conditions de combat ne sont plus ce qu'elles étaient il y a quelques années de cela, parce que la lumière a brillé sur nous avec une intensité accrue et que de grands et solennels avertissements nous ont été adressés. Si nous ne savons pas discerner les temps dans lesquels nous vivons, nous risquons, même avec les meilleures intentions du monde, de commettre de graves erreurs et de faire obstacle à l'avancement de l'œuvre. Les exigences à l'égard des chrétiens sont les mêmes aujourd'hui que jamais, à savoir une obéissance parfaite, mais les attaques de Satan sont plus sournoises. Son mode de combat est si différent de celui auquel on pourrait s'attendre que, si nos sens ne sont pas éveillés pour comprendre ses plans, nous ne serons pas prêts à nous défendre. Hein? 1891, frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que ces déclarations impliquent? Je vais nous aider. Sir White disait que, en son temps, 1891, hein, rappelez-vous, en 1888, vous aviez le message de la justice par la foi, le message sur la justice de Christ, un message qui provoqua des tumultes inouïs au sein de la dénomination des adventistes du septième jour. Et donc, la sœur White ici est en train de dire, rappelez-vous, les temps et les lieux. Hein, en ce temps-là, qui venait après ce message, elle disait, les serviteurs de Christ ont besoin devraient chercher à comprendre les obligations de ce temps. Et ensuite, elle dit que les conditions de combat, hein, ne sont plus ce qu'elles étaient il y a quelques années de cela. Donc, elle dit que maintenant, les temps ont changé et que les serviteurs ont besoin d'avoir du discernement pour savoir où ils vivent, quel temps ils vivent, afin que ils ajustent leur activité. Hein? Parce que la lumière a brillé sur nous avec une intensité accrue et que de grands et solennels avertissements nous ont été adressés. Si nous ne savons pas discerner les temps dans lesquels nous vivons, nous risquons, même avec les meilleures intentions du monde, de commettre de graves erreurs et de faire obstacle à l'avancement de l'œuvre. Si nous n'avons pas cette intelligence des temps, si nous ne savons pas discerner les temps dans lesquels nous vivons, qu'est-ce qui se passera? Même si nous avons les meilleures intentions, même si nous sommes le mieux intentionné du monde, nous risquons de commettre de graves erreurs parce que, n'ayant pas le discernement, nous ferons des choses que nous ne devrions pas faire et nous omettrons de faire les choses que nous devrions faire. Vous comprenez? Nous parlerons de choses révolues et nous manquerons et serons dans l'incapacité de donner la nourriture nécessaire, convenable à ce temps. Vous comprenez? Et donc, hein, parce qu'elle disait, les attaques de Satan sont plus sournoises, son mode de combat est si différent de celui auquel on pourrait s'attendre que si nos sens ne sont pas éveillés pour comprendre ses plans, nous ne serons pas prêts à nous défendre. Et maintenant, on continue parce que ça en soi, cela aussi, c'est une déclaration générale. Si nous prenons simplement cette citation séparée des autres, nous ne savons pas d'où elle vient, nous ne savons pas où elle va, nous n'avons pas non plus nous-mêmes de repères. Mais Sir White disait, ceux à qui Dieu a confié cette vérité présente ont perdu leur repère. Hein? Ont perdu leur repère. Ils ne savent pas vraiment où ils sont. Et donc, ils ne vont pas réellement où Dieu veut aller. Dieu veut les conduire. Et où est-ce que, ça qui est important, où est-ce que Dieu désirait conduire les adventistes? Eh bien, nous y répondons à cette question en lisant cette citation dans Message choisi, volume 1, page 276 et premier paragraphe. Où Sir White nous parle ici du message de 1888 et nous parle également de cette vérité qui était enseignée à travers les frères Jones et Wagner sur la loi comme notre conducteur. Hein, la loi était notre conducteur pour nous mener à Christ. Il y avait du temps de ce message une certaine incertitude parmi les frères adventistes sur la nature de cette loi. Était-ce la loi des 10 commandements ou était-ce la loi cérémonielle, mosaïque? Il y était une incertitude. Certains, les frères Wagoner et Jones disaient plutôt que c'était la loi des 10 commandements, et d'autres, comme certains dont je ne me souviens pas exactement le nom tout de suite, il y en a un tout particulier qui est connu, disait que c'était la loi cérémonielle. Sir White a tranché, elle a dit qu'il s'agit des deux, mais principalement de, je me souviens plus ici, elle dit il s'agit des deux. Mais, et donc ici, il y avait cette vérité-là qui était directement liée au message de la justice par la foi. Si vous contemplez vraiment, d'ailleurs nous avons une étude sur cela par le frère John, sur Marcher à la lumière de 1888. Il y a un message qui s'intitule « La loi, notre conducteur ». Donc si vous avez un doute sur cela, je vous invite à vous tourner vers cette méditation. Et je vais lire ici la citation pour que nous puissions voir le carrefour. Elle dit « Le refus d'abandonner des idées préconçues et d'accepter cette vérité, hein, la vérité sur la loi comme notre conducteur, et également toute la vérité élargie de la justice par la foi, le refus d'abandonner des idées préconçues et d'accepter cette vérité explique en grande partie l'opposition qu'a rencontré à Minneapolis le message du Seigneur présenté par les frères Wagoner et Jones. En suscitant cette opposition, Satan a réussi dans une grande mesure à priver notre peuple de la puissance extraordinaire du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment lui communiquer. L'ennemi les a empêchés d'obtenir cette efficience qui aurait pu caractériser leur proclamation de la vérité au monde, ce qui aurait renouvelé l'expérience faite par les apôtres après la Pentecôte. On a résisté à la lumière qui doit illuminer le monde entier de sa gloire, et ce sont quelques-uns de nos propres frères qui ont contribué pour une grande part à priver le monde de cette lumière. Et donc, nous voyons ici que le diable a poussé les adventistes du septième jour à rejeter ce message de 1888. Et en les poussant à rejeter ce message, il les a conduits à quoi ? À une perte du discernement. En suscitant cette opposition, nous lisons que Satan a réussi dans une grande mesure à priver notre peuple de la puissance extraordinaire du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne le discernement. Et donc, si nous sommes privés de la puissance du Saint-Esprit, que nous arrive-t-il? Est-ce que nous devenons maintenant comme un peuple sans repère? Mais cette perte de repère, cette perte de discernement, à quoi est-elle due? Ces hommes n'étaient pas des victimes. Ils ont manifesté une opposition, ils se sont opposés au message de Minneapolis, de 1888, présenté par les frères Wagoner et Jones. Les hommes, refusant d'abandonner leurs idées préconçues et d'accepter de nouvelles vérités que eux n'avaient pas, se sont opposés au message de 1888. Et par la suite, ils se sont vus privés de la puissance du Saint-Esprit que Dieu désirait déverser sur son peuple. Et maintenant, continuons. Donc, il s'agit ici de la perte de repère. C'est ce que nous venons de voir. Et de ce, cette opposition au message. Okay? L'opposition au message, la perte de repères. Et maintenant, je lis dans le livre Testimonies to Ministers, à la page 466, paragraphe 2 et page 467. En lien encore avec cette opposition, elle dit « Accuser et critiquer ce que Dieu utilise, c'est accuser et critiquer le Seigneur qui les a envoyés. Tous ont besoin de cultiver leurs facultés religieuses afin d'avoir un juste discernement des choses religieuses. Beaucoup n'ont pas su faire la différence entre l'or pur et les paillettes, entre la réalité et son ombre. Les préjugés et les opinions qui régnaient à Minneapolis ne sont pas morts, loin s'en faut. Les graines semées dans certains cœurs sont prêtes à prendre vie et à engendrer une récolte de même nature. Les cimes ont été coupées, hein, le haut de l'arbre, ou même le tronc entier, mais les racines n'ont jamais été éradiquées et elles portent encore leurs mauvais fruits pour empoisonner le discernement, pervertir les perceptions et aveugler l'intelligence de ceux avec qui vous êtes en relation en ce qui concerne le message et les messagers. Lorsque par une confession complète vous aurez détruit la racine de l'amertume, vous pourrez voir la lumière dans la lumière de Dieu. Ou littéralement, ou de manière plus compréhensive, vous pourrez discerner la lumière dans la lumière de Dieu. Comment ? Lorsque par une confession complète, vous aurez détruit la racine de l'amertume. Sans ce travail approfondi, nous dit l'esprit de prophétie, sans ce travail approfondi, vous ne purifierez jamais vos âmes. Vous devez étudier la parole de Dieu avec pour objectif, non pas de confirmer vos propres idées, mais de les faire corriger, ou littéralement élaguer, de les condamner ou de les approuver selon qu'elles sont ou ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. La Bible doit être votre compagnon de tous les instants. Vous devez étudier les témoignages, non pas pour choisir certaines phrases et les utiliser comme bon vous semble, en vue de renforcer vos affirmations, alors que vous ne tenez pas compte des déclarations les plus claires qui sont données pour corriger votre ligne de conduite. Qu'est-ce que c'est ici ? Est-ce que, frères et sœurs, vous arrivez à comprendre le carrefour adventiste de la perte du discernement ? Est-ce que vous le voyez ? Hein ? Aujourd'hui, nous nous concentrons sur des points mineurs, d'importance mineure. Nous regardons uniquement la boule qui a été créée par l'avalanche. Mais où est le début de la perte de neige? Hein? Où ce début de perte de discernement a-t-il eu lieu? Là, en cette époque, en 1888, lorsque le diable a tenté les hommes à s'opposer à la vérité. À s'opposer à quoi? Nous allons le voir. Quel était ce message? Nous allons le voir. Mais ici, avant même d'y parvenir, nous voyons que c'est les racines. Quelles étaient ces racines? Ces racines d'amertume n'ont jamais été éradiquées. Hein, donc, en apparence, il a semblé que les choses s'étaient améliorées, mais les racines d'amertume contre le Seigneur et contre ses serviteurs, et contre le message et contre les messagers, et à travers eux contre celui qui leur a donné le message qui est Dieu, ces racines d'amertume n'avaient jamais été éradiquées. Et Sir White disait que ces racines-là, elles portent encore leurs mauvais fruits aujourd'hui en son temps. Et dans quel sens portent encore leurs mauvais fruits pour empoisonner le discernement, pervertir les perceptions et aveuglez l'intelligence de ceux avec qui vous êtes en relation en ce qui concerne le message et les messagers. À savoir, l'amertume que ces hommes avaient dans le cœur vis-à-vis du message et des messagers qui ont communiqué le message, les empoisonnait de telle sorte à les rendre incapables de discerner les temps et ce qu'ils devraient faire. Et ils pervertissaient leur perception et aveuglaient, et aveuglent encore aujourd'hui, leur intelligence. J'aimerais donc poursuivre à travers la citation suivante de Message choisi, volume 1, page 425 et paragraphe 2. Message choisi, volume 1, page 425, paragraphe 2. Voilà ce que la sœur White déclarait. Nous voulons parvenir à la conclusion ici, afin de vraiment comprendre ce qui s'est passé alors et en quoi cela nous influence aujourd'hui. Elle disait, « Vous tous qui affirmez croire que le Seigneur vient bientôt, sondez les Écritures plus que jamais, car Satan est décidé à mettre en œuvre tous ses moyens de séduction pour retenir les âmes dans les ténèbres et pour aveugler les esprits de sorte qu'ils ne voient pas les périls des temps où nous vivons. » Qu'ils ne voient pas. Aveugler les esprits de sorte qu'ils ne voient pas les périls dans lesquels nous vivons. Que chaque croyant prenne sa Bible avec d'ardentes prières pour qu'il soit éclairé par le Saint-Esprit au sujet de la vérité et qu'il apprenne à mieux connaître Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé. Cherchez la vérité comme un trésor caché et que l'ennemi soit déçu. Le temps de l'épreuve suprême est imminent car le grand cri du troisième ange a déjà commencé dans la révélation de la justice de Christ, le Rédempteur qui pardonne le péché. C'est le commencement de la lumière de l'ange qui doit remplir la terre entière de sa gloire. Qu'est-ce que c'est? Quel était ce message de 1888? Ce message de la révélation de la justice de Christ? Elle disait, le grand cri du troisième ange a déjà commencé. Et que disait-elle également? Elle disait, c'est le commencement de la lumière de l'ange qui doit remplir la terre entière de sa gloire. Autrement dit, frères et sœurs, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce message de 1888, excusez-moi, je perds ma page, ce message de 1888 était le grand cri du troisième ange et que c'était le début de cet autre ange d'Apocalypse chapitre 18. Le langage ici ne laisse aucune ombre d'un doute. Il s'agit de quel est l'ange qui doit remplir la terre entière de sa gloire? Celui d'Apocalypse chapitre 18 versets 1 et 2 et 3. C'est lui. Et Sir White nous dit que le message de 1888 est le début de cet autre ange. Vous voyez? Et ensuite, je n'ai pas avoir le temps de lire toute la citation, mais dans le passage de Conseil à l'Église, page 274, paragraphe 3, jusqu'à la page 275, paragraphe 2, Sir White parle du peuple de Dieu qui a été criblé, qui a traversé le criblage. Elle les voit criblés avec puissance. Elle dit, j'ai vu quelques croyants qui, avec une grande foi et des cris angoissés, plaidaient avec Dieu. Ensuite, elle dit, j'ai vu que quelques-uns d'entre eux ne participaient pas à cette œuvre d'intercession. Ils semblaient indifférents à ce qui se passait autour d'eux. Ils ne résistaient pas aux ténèbres qui les entouraient et celles-ci les emprisonnaient comme une épaisse nuée. Ensuite, elle continue de voir les anges de Dieu se hâter auprès de ceux qui luttaient dans la prière avec Dieu, avec persévérance, implorant le Seigneur. Et en contraste, ceux qui ne luttez pas contre les ténèbres et que se voyez enveloppé par elles. Et ensuite, elle dit ceci au paragraphe 5 et 6. Je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il serait causé par le témoignage franc suscité par le conseil du témoin véritable aux Laodicéens. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit et il l'amènera à exalter l'étendard et à communiquer la franche vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas, ils le combattront et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. Le témoignage du témoin véritable n'a été écouté qu'à moitié. Ce témoignage solennel dont dépend la destinée de l'Église a été considéré à la légère, sinon tout à fait méprisé. Il doit produire une sérieuse repentance. Tous ceux qui le reçoivent vraiment s'y conformeront et seront purifiés. Et ensuite, cela continue et elle voit ces personnes-là dans cette lutte. D'ailleurs, ce sont les soldats de cette armée dont nous parlions dans notre école du sabbat aujourd'hui, cette armée qui finalement sera triomphante, et elle les voit qui luttent ainsi avec Dieu, avec persévérance dans la prière, qui ne se laissent pas envelopper par les ténèbres, et donc qui ne se laissent pas empoisonner leur discernement par le diable qui veut qu'ils s'opposent au message de 1888, au message de la justice par la foi, au message de la vérité telle qu'elle est en Jésus, au message de la loi telle que notre conducteur qui doit nous mener à Christ, ce message qui est censé de la profonde condamnation du péché nous mener à la lumière de la justice par la foi, pas juste quelque chose de complètement superficiel que nous apprenons même des églises protestantes déchues, mais un vrai message de profonde repentance qui nous mène à une profonde réforme. Elle voit tout cela, je vous ai fait un résumé, et ensuite elle dit, à la page 275, paragraphe 2, j'entendis ceux qui étaient revêtus de l'armure parler de la vérité ou proclamer la vérité avec beaucoup de puissance. Celle-ci, cette vérité, produisait son effet. Plusieurs avaient été retenus, de point, des femmes par leurs maris, des enfants par leurs parents. Les âmes sincères qui avaient été empêchées d'entendre la vérité l'acceptaient maintenant avec empressement. Toute crainte de leurs membres de famille avait disparu. Seule comptait pour eux la vérité. Elle leur était plus chère et plus précieuse que la vie. Ils avaient eu faim et soif de la vérité. Je demandais ce qui avait produit ce grand changement. Un ange me répondit de point, c'est la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement de la part du Seigneur, le grand cri du troisième ange. Grand cri. Du troisième ange. Et quoi? La pluie de l'arrière-saison. Est-ce que vous voyez tous les synonymes ici? La pluie de l'arrière-saison, c'est le grand cri du troisième ange. Le grand cri du troisième ange, c'est le début de la lumière de l'ange qui doit éclairer le monde entier de sa gloire. L'autre ange, d'Apocalypse chapitre 18. Et donc, Sir White nous dit que, à la suite de ce message de 1888, vous avez ce carrefour adventiste de la perte du discernement et du trajet des fidèles vers la victoire. Vous en avez un, vous en avez qui vont vers le haut et les autres qui vont vers le bas comme ça. C'est le carrefour. 1888, frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre. Parce que si nous sommes réformateurs, adventistes réformateurs, nous disons, voilà, la réforme, c'est l'outrange. C'est vrai. Mais ce n'est pas tout. Parce que l'outrange a commencé avant l'organisation et il continuera après elle. Vous comprenez, frères et sœurs, le mouvement de réforme a incarné l'outrange d'Apocalypse chapitre 18. Si le mouvement de réforme apostasie de la vérité, est-ce que l'outrange continue? Il continue. Et jusqu'à où? Où continue-t-il? Une autre voie. Une autre voie. Et donc, frères et sœurs, pour ici clore notre méditation, nous avons vu cette vision du criblage et de la pluie de la saison. Nous avons vu tout cela afin de savoir où nous sommes. Nous comprenons donc que depuis 1888, nous avons vécu dans cette période de la pluie de la rescission. Le fait que nous ne l'ayons pas reçue, ça ne veut pas dire qu'elle a été arrêtée, annulée, reportée. C'est juste que nous ne l'avons pas reçue. D'ailleurs, l'esprit de prophétie nous dit qu'il se peut que cette pluie tombe tout autour de nous, mais que nous ne la recevions pas, ni ne la discernions, cette pluie. Et donc, le fait que nous ne la discernions pas et que nous ne l'ayons pas reçue ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu lieu. L'esprit de prophétie nous a stipulé qu'elle a commencé. Mais en quoi cela nous affecte-t-il aujourd'hui? Quel est l'impact sur nous aujourd'hui? Eh bien, en ceci, frères et sœurs, parce que l'histoire nous montre que ce criblage qui était suscité par le conseil du témoin fidèle et véritable, Jésus, et par le message de la justice de Christ, a abouti à la séparation des fidèles du mouvement de réforme. En 1914 et ensuite concrètement en 1925, lorsqu'ils ont organisé leur mouvement, c'était ceux qui ont décidé de rester fidèles au beau milieu de la Première Guerre mondiale, au milieu d'une multitude de croyants prétendus au message des trois anges, mais qui n'étaient pas prêts à faire de sacrifice, qui déjà avaient vu leur discernement empoisonné. Leur perception tordue, leur amour refroidi. Et donc, lorsque la guerre mondiale a éclaté, ils n'étaient pas prêts. Nous avions vu, si nous n'avons pas de discernement, ou pour savoir où est-ce que nous sommes, pour savoir ce que nous devrions faire, nous ne serons pas prêts à nous défendre. Vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à appliquer maintenant les témoignages? Et donc, le message de 1888 nous situe à l'autre ange d'Apocalypse, chapitre 18, qui nous a été déclaré comme le grand cri du troisième ange. Et à la pluie de la saison. Ensuite, la chute de cette organisation qui a incarné le quatrième ange, nous arrivons à cette chute, à la fin du XXe siècle, à travers leur abandon du message sur la nature de Christ. Cette chute est documentée. Nous l'avons nous-mêmes documentée, la chute de cet autre ange. Je vous invite à contempler cela. Et tout cela nous aide donc à comprendre le besoin d'une autre voie pour reprendre le flambeau du message et pour conduire le peuple de Dieu à la perfection. Vous comprenez? Et donc, frères et sœurs, voilà où nous sommes aujourd'hui. J'ai essayé aussi brièvement que possible de nous conduire le long du tracé prophétique, en faisant beaucoup de raccourcis, parce que nous avons déjà exposé cela, déjà contemplé cela, afin de nous aider à savoir où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous nous trouvons précisément à ce passage d'Apocalypse, chapitre 18, verset 4. « Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Nous nous approchons de l'accomplissement entier et final de ce passage. Mais avant cela, nous avons besoin de nous engager dans une tâche qui nous placera parmi ce peuple-là. C'est la tâche de la formation du caractère. Mais dans cette tâche de la formation du caractère, nous avons malgré tout besoin de discernement. Et c'est ce que j'ai cherché à nous communiquer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Puisse, frères et sœurs, le Seigneur nous aider non seulement à voir, à comprendre, mais à agir. tout ce que je vous ai partagé ici aujourd'hui était en lien direct avec toutes ces études que nous avons eues sur les sept églises, hein, sur ce passage d'Apocalypse chapitre 12 verset 17, et tout ce qui a trait à ces méditations sur l'Église triomphante. Nous voulons faire partie de l'Église triomphante, et pour cela, nous avons besoin de savoir où nous sommes présentement, afin de véritablement comprendre où nous devrions aller. Et comment nous pouvons le faire aujourd'hui? Eh bien, certainement en nous affranchissant. C'est une chose, en nous affranchissant des personnes qui, comme ces hommes du temps de Wagoner et Jones et de Sir White, s'étaient et s'opposaient à la justice par la foi, au message de 1888. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, nous assistons aux fruits mauvais des semences qui ont été jetées en terre de tous les cœurs qui étaient prêts à la recevoir. Et nous voulons nous affranchir de ces racines d'amertume et utiliser le discernement que Dieu nous donne et recevoir la nourriture au temps convenable afin d'être à notre tour habilité et capable de la communiquer, afin de réellement faire écho à cette autre voix qui devient à son tour une source de secours qui aide maintenant le peuple de Dieu dans Babylone, leur dit « Voilà, voilà, sortez, maintenant émancipez-vous aussi. » Puisse Dieu, frères et sœurs, nous aider, nous donner le discernement et nous inspirer une motivation à le chercher inlassablement et à vivre en conséquence. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Je vous souhaite un bon sabbat.